Strasbourg, Léa Charton, Léo Feder, Philippe Hild et Fabien Rougy qui vont vous présenter.
Bonjour à tous. Oui. Après avoir pris autant d'altitude, on va redescendre chez les acteurs de la surmédicalisation. On se présente donc Léa Charton, qui est chef de clinique au département de médecine générale à Strasbourg, Fabien Rougy, maître de conférence associé au département de médecine générale. On vous présente le travail de Léo Feder, qui était un travail de thèse dirigé par Philippe Hild, qui s'intitulait la surmédicalisation en tant que médecin généraliste. Donc, c'est un travail qualitatif, donc pas d'aussi grande qualité que le travail ethnographique de Laura, mais ça va vous permettre de vous replonger un petit peu dans ce que pensent les acteurs. Donc les objectifs, c'était l'exploration de la notion de surmédicalisation en partant d'expérience des médecins généralistes libéraux ambulatoires, l'exploration du champ de leur connaissance sur la surmédicalisation et ce qu'ils pensaient pouvoir proposer comme solution à leur problème de surmédicalisation. Il s'agit d'une étude qualitative, donc très rapidement la théorisation ancrée, on part sur le terrain de la recherche uniquement avec la thématique et des entretiens, eh bien, on va construire la théorie de manière inductive et on ne va pas valider une théorie proposée en avance. Donc l'échantillon qui ne pouvait pas du tout être représentatif, hein, il n'a de valeur que pour lui-même, et bien c'était celui-là, donc 10 médecins généralistes alsaciens. Alors on les a interrogés pendant une vingtaine de minutes en moyenne chacun. Ils avaient entre 30 et 56 ans, avec une médiane à 52 ans. Les femmes étaient majoritaires, 7 femmes pour 3 hommes. Les médecins installés étaient aussi surreprésentés, il n'y avait que 3 remplaçants. Deux médecins exerçaient en milieu rural, les autres milieux semi-urbains et urbains étaient représentés de manière équilibrée. Je vais passer la parole à Léa en ce qui concerne les résultats de ces entretiens.
Alors, on a organisé les résultats sous trois grands axes, les déterminants de la surmédicalisation, les conséquences de la surmédicalisation et puis les ébauches de solutions qu'ils avaient. Et donc, sur les déterminants de la surmédicalisation, ce qui ressortait le plus, c'est l'incertitude. C'est ce qu'on voit, hein. Moi, en patient, je me dis toujours qu'il y a 250 patients auxquels je n'ai pas pensé. Là, on vous a mis des choses qui sont tirées des entretiens qu'on a eus. Il y a eu la pression ressentie, l'obligation de moyens, la demande du patient, l'indication parfois discutable des examens complémentaires, le principe de précaution et l'absence de valorisation de la non-surmédicalisation. On vous a fait un petit focus parce que si on ne sortait plus, c'était aussi l'anxiété, c'est-à-dire moi je suis anxieuse, donc je vais faire des choses pour me rassurer moi-même. Et donc il parlait bien sûr des facteurs extrinsèques, des facteurs intrinsèques et de l'absence de valorisation du fait qu'on surmédicalise pas. Voilà. Après, du côté du patient, alors là on est d'accord, on n'a pas interrogé le patient, c'était ce que pensaient les médecins de ce que pensent les patients. Et en fait, ils pensent en majorité que les patients sont angoissés, qu'ils ont besoin d'être rassurés, que l'environnement du patient joue beaucoup, qu'il y a une logique individuelle, qu'ils ignorent le coût des soins. Par exemple, le patient, s'il devait assumer le coût, il réfléchirait peut-être. Donc c'est un peu la faute des patients, en fait. En fait, ce qui me vient en premier quand j'entends sur l'éducation, c'est les patients qui manquent trop d'examens. Donc là encore, on se dédouane un peu. Il y avait beaucoup d'idées fausses hein, dans ce qu'ils disaient. Par exemple, le fait que les patients qui ne savent pas combien coûtent les choses, ou les patients qui ne payent pas, sous-entendu les patients en CMU, consomment plus, on sait que c'est faux. Bien sûr, ce qui ressortait, c'est aussi mon patient est anxieux, donc je vais le rassurer en faisant des examens. Sur toujours les déterminants, c'était la relation médecin-malade et le fait que si on a une relation médecin-malade qui marche, on évite la surmédicalisation. Si elle marche bien, pas bien, là, c'est plus compliqué. Et donc, il faut être proche de lui pour qu'il puisse nous écouter, avoir confiance en nous. Et à la limite, s'il se barre, c'est qu'il n'a pas compris, il n'a pas envie de comprendre, il n'a pas confiance. C'est pas la peine qu'il continue avec moi. Donc, la nécessité de bien connaître le patient. on vous a fait une petite synthèse des déterminants, de ce qui ressortait, en tout cas de ce qu'il disait, c'est un volet patient, un volet médecin, un volet environnement, et tout ça, c'est le triptyque de la surmédicalisation.
Autre point des résultats, les conséquences. Alors, du côté médecin, pas énormément de résultats. Une notion d'augmentation d'activité médicale au profit du médecin, liée à la rémunération à l'acte. Du côté patient, toujours ce que pense le médecin, des conséquences sur le patient, pas de bénéfice, surmédicalisation anxiogène, entrée du patient dans une pathologie de manière inutile, pathologie inexistante, pathologie sans traitement, incidentale, pathologie infraclinique, tout ça était cité. Conséquences pour la collectivité, le coût important pour la sécurité sociale, la consommation des ressources médicales disponibles. Donc, petit schéma synthétique de ce que pensent les généralistes des conséquences de la surmédicalisation. Maintenant, sur ce qu'ils proposaient comme piste de réflexion pour des solutions, je repasse la parole à Léa.
En fait, ils n'en avaient pas beaucoup de solutions. Il y avait quand même, ce qui ressortait, c'était une prise de recul sur la prévention. Ils ont entendu ce que vous dites sur le dépistage du cancer du sein, peut-être qu'on va trop loin. Il y avait l'importance de l'examen clinique. Hein. Si on s'était fié à la clinique, on aurait pu éviter les coups du foie. Et puis, il y avait aussi le bénéfice-risque des examens et le fait qu'il faut éduquer les patients. Dans un grand mot, est-ce que ça aide d'éduquer les patients? Il faut rassurer les patients, il faut une coordination des soins pour le médecin traitant et il faut renforcer la protection juridique du médecin, c'est-à-dire si j'ai pas peur d'avoir un procès, du coup peut-être que je suis un peu moins frileux. Voilà. Donc sur les crises du patient, ce qui revenait beaucoup, c'est le questionnement sociétal, c'est-à-dire tant que la société ne se remet pas en question et tant qu'elle ne nous protège pas, on ne va pas changer. Il faut éduquer le patient et bien sûr les médecins un peu plus expérimentés se permettaient de dire que avec l'expérience ça va mieux. Et donc en fait en conclusion, ce qui était intéressant, c'est bien sûr ce qu'ils disaient, mais c'est surtout ce qu'ils ne disaient pas. Et à quel point ils sont éloignés de tout ce que vous savez. Et par exemple, les concepts, ils ne connaissaient même pas la création de pathologie, les conflits d'intérêts, il n'y en a aucun qui a parlé des conflits d'intérêts, ce qui est un peu inquiétant. Et on s'était dit que de partir de ce qu'ils ne connaissaient pas ou de ce qu'ils n'avaient pas évoqué, c'était un bon levier pour améliorer la formation médicale initiale et continue sur le thème de la surmédicalisation. Et on a quelques questions qui restent en suspens et dont on n'a pas les réponses. C'est comment sensibiliser les professionnels de santé, à quel moment dans les études, et surtout, est-ce qu'on est efficace quand on parle à des étudiants en médecine qui ont un objectif de carrière universitaire, qui veulent faire plaisir à l'IBH, qui souvent sont un petit peu en conflit avec l'industrie pharmaceutique. Voilà. Merci.
Je trouve que c'est parfait, on peut prendre une ou deux questions rapides. Allez-y.
Je suis, la surmédicalisation, il me semble qu'il faut parler aussi de la pub et de la technologie par rapport à la clinique ou quoi, non? Est-ce que ça ressortait ça aussi chez les médecins? Parce que oui, on a toujours cette pression, les gens ils sont au courant des dernières techniques, c'est passé à la télé, devant les derniers médicaments, ils veulent que l'IRM et par rien d'autre, voilà. Il y a tout ça. Et l'examen clinique, enfin moi j'ai été assez éduquée à ça, mais voilà, c'est pas valorisé du tout. Et c'est vrai que quand même ça sert. Quand tu prends le temps d'examiner ton patient, tu fais rentrer des choses. Hein, mais, ben, je le sens dans ma pratique, mais je trouve qu'au niveau des études, c'est pas valorisé du tout.
Est-ce que vous avez demandé s'ils recevaient des visiteurs médicaux?
Non.
Dernière question. Allez.
Juste,
c'est des études qualitatives,
non
qualitatives, on n'est pas représentatif, je le sais. C'est juste pour élargir des gens des idées. Et ça ne faisait
pas partie de la
vie. Catherine Gapard, je suis médecin généraliste, à mon sens, des éléments de réponse. Je suis MSU, je reçois pas les visiteurs médicaux. Quand j'ai des internes en stage, des externes au cabinet, c'est des choses qu'on commence à aborder, bien sûr, la dépendance des diagnostics pharmaceutiques, etc. Je pense que ça passe par là, en formation initiale, et puis en formation continue, là on va dire que j'ai un lien d'intérêt plus qu'un conflit. La SFTG est co-organisatrice de ce colloque, et il y a un DPC par exemple qui a été créé là, on a l'air qui sait, parce qu'il sera à l'excès, sur surmédicalisation, comment on peut aider avec le patient à choisir. Et je pense que ça aussi, la co-décision avec le patient, ça va faire partie des choses qui nous font avancer.
Moi, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. En fait, pour faire court aux étudiants en petit groupe, l'autre jour, on parlait du traitement du diabète. Et ils m'ont dit, ah, est-ce que tu as lu la nouvelle recommandation de la Société française de diabétologie? J'ai dit, bah non. Ils disent, bah, apparemment, il ne faut plus du tout utiliser les sulfamides, il faut utiliser les inhibiteurs de BP4 ou les analogues de la GLP1 en deuxième intention, voire en première intention, chez les patients en insuffisance cardiaque. C'est hyper important. Et donc, je leur ai dit, mais vous allez regarder les intérêts des gens qui sont à la Société française de diabétologie. Ils m'ont dit, oui, mais quand même, c'est les spécialistes. Et donc, on part de très très loin, et les étudiants, ils sont... Déjà, j'ai l'impression qu'ils ont un peu peur de ça à savoir, et en fait, ça les rassure de s'appuyer sur des choses, soi-disant, spécialistes, quoi. Et donc, du coup, on essaye, on fait une formation aux étudiants sur les liens avec l'industrie pharmaceutique et tout ça. Il y a très peu de monde qui vient, et je ne sais pas ce qu'ils en retirent.